is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,
nous continuons la lecture de David Graeber, la Bullshit Jobs, lecture qui a été interrompue par Brigitte Bramy et qui voulait présenter son livre Miracle de Genet. J'ai oublié de... Oh là là. Ça va, je te dis.
C'est bon.
Et on commence par quelques informations générales, hein, prises dans Mille Bâbords. Qu'est-ce qui se passe à Marseille en ce moment? Eh ben, ce soir à 17h30, c'est la réunion au local de Mille Bâbords de RESF. Important, hein, d'autant que RESF, il se bouge en ce moment, soit pour les pétitions, soit pour participer à des actions communes. Toujours ce soir à 19h, au musée de Marseille, aux 2 rue Henri Barbus, une exposition qui a pour titre Les Autres, héritage colonier, plus exactement Exposer les autres, point d'interrogation, héritage colonial et défis de notre temps. C'est c'est aux 2 rue Henri Barbus. J'arrive pas à me souvenir du nom. On y accède par le centre commercial. Jeudi 20, je passe vite, au lendemain, à 18h, un appel qui est très important, un appel unitaire pour le logement digne. Et le rassemblement sera à 8h du matin. Oui, il faudra vous lever tôt. Devant la mairie. Toujours jeudi, 17h30, un cercle de silence exceptionnel parce que tous les partenaires du mouvement pour soutenir les migrants vont y participer. C'est à l'angle Cours Saint-Louis-Canebière. Le mouvement s'appelle EGM, mais j'ai oublié le sens des initiales. Toujours jeudi, alors ça, dans un autre registre, à 18h, à la librairie Transit, parler bouquins et passer un bon moment. Vous pouvez amener, c'est l'auberge espagnole, ce que vous voulez comme bouquin et comme chose à manger ou à boire. Passons à vendredi, à l'équitable café, une conférence intitulée « À nos ancêtres ». C'est au sujet du Vietnam et c'est l'occasion pour de jeunes chercheurs, de jeunes doctorants, de pouvoir rencontrer d'autres milieux que le leur. Autre chose aussi, vendredi, à nos ancêtres, j'ai noté ça. Projection débat, hein. J'ai dit que c'est une conférence, non, c'est une projection débat. Et puis alors, autre chose aussi, toujours vendredi, et à 19h, à l'Astronef. L'Astronef, c'est dans les quartiers nord, au 118 chemin de Mimet, dans le 15e. Un spectacle à nos morts. Hein. Eh bien, c'est un hommage du hip-hop aux travailleurs étrangers. Et c'est la compagnie Mémoire Vive qui a le plaisir de nous inviter pour cela. Voilà pour ce qui est des choses que j'ai repérées grâce à Mille Bâbords, qui soit remercié pour son agenda. Et je vous indique un petit livre, parce que j'ai été noyée dans la grand nombre des livres qu'on vous propose pour acheter pour Noël. Moi, je n'ai pas la fièvre des cadeaux de Noël. Et c'est le petit livre que je vous propose est écrit par Mathieu Giroux. Il a pour titre « Charles Péguy, un enfant contre le monde moderne ». Ah, on a tellement parlé sur Peggy. Était-il socialiste d'abord? Était-il chrétien d'abord? Et puis alors, comment là, il est devenu belliciste alors qu'en principe, il ne devait pas l'être? Et c'est l'édition première. Donc, cette mise au point sera sûrement intéressante. C'est un ouvrage qui est court et l'éditeur, c'est Première Partie. Voilà donc pour les nouvelles culturelles. Hein. Et on va passer à Bullshit Jobs, David Graeber. David Graeber, vous l'avez connu parce que je vous ai lu des passages de son gros livre « Dette » paru en 2016 et qui faisait l'histoire de la dette. C'est pas mauvais de s'en souvenir au moment où on en parle tant en Europe et aussi avec le Brexit. Il est professeur à la London School of Economics à Londres, d'après ce qu'on m'a dit. C'est une des écoles les plus prestigieuses d'Angleterre. Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup d'articles, qui polémique beaucoup, qui se bouge véritablement. Mais enfin, c'est d'abord un grand intellectuel. Où est-ce qu'on en était? Je reviens quand même un peu à l'autre mercredi. Où est-ce qu'on en était? Et il fait notamment, après avoir défini les bullshit jobs, ce sont des jobs qui sont inutiles, voire même nuisibles. Et ce sont tous les jobs intermédiaires hein, qu'il dénonce dans notre société. Et il en fait la liste. Il en fait la liste. Il y a les larbins qui travaillent pour autrui. Ça commence au valet de pied du temps de la royauté. Les porte-flingues, les porte-flingues de la mafia, mais c'est ceux qui, pareil, se battent pour obtenir des marchés pour autrui. Les rafistoleurs qui viennent réparer les appareils, notamment les appareils informatiques, mais toutes sortes d'appareils, quand les autres les ont mal fabriqués, alors il faut bien... il faudrait mieux que les choses soient bien fabriquées, mais non, il faut employer des rafistoleurs. Il reste encore deux catégories. Les cocheurs de cases, c'est ceux qui font des enquêtes et cochent des cases au lieu de faire le travail qu'ils sont censés faire. Par exemple, un travail d'animation dans une maison de retraite, c'est l'exemple qu'ils donnent, parce que chaque fois, ils donnent des exemples avec des témoignages qui, vous allez l'entendre, parce que ça recommence cette fois-ci, qui vaut leur pesant d'or. Et enfin, restent les petits chefs. Alors les petits chefs, c'est pas les petits chefs comme disaient les maoïstes autrefois. Non, les petits chefs, c'est ceux qui viennent dans une entreprise ou dans une banque pour améliorer la communication, qui n'ont rien à faire, mais qu'on doit écouter. C'est ça, les petits chefs. Et maintenant, nous allons répondre à trois questions. C'est notre lecture d'aujourd'hui. Pourquoi? Première question, pourquoi un job à la con rend-il si souvent malheureux? On va reprendre des témoignages qui sont des plaintes, mais pas sur le même sujet que la dernière fois. La dernière fois, c'était « je suis inutile », là, c'est « comment je suis très, très malheureux ». Deuxième question, comment expliquer la prolifération des jobs à la con? Et ensuite, la troisième question, c'est comment on peut y remédier? Alors, je vous le dis tout de suite, lui, c'est RUB, le revenu universel de base. Voilà le menu. Et on commence par la première lecture et la première question. Pourquoi un job à la con sont-ils souvent si malheureux? Et c'est l'exemple d'Éric.
J'ai eu un paquet de boulots atroces, mais le vrai, le pur job à la con dans toute sa splendeur, c'est mon premier emploi pro après l'obtention de mon diplôme il y a une douzaine d'années. Dans ma famille, j'étais le premier à être allé à l'université. J'avais une vision profondément naïve de la finalité de l'enseignement supérieur. Du coup, je m'attendais à ce que cela m'ouvre un tas d'horizons insoupçonnés. Tout ce que ça m'a offert, c'est des stages chez PricewaterhouseCoopers et autres KPMG. Pendant 6 mois, j'ai préféré toucher le chômage et dévorer des romans russes et français à la bibliothèque universitaire. Jusqu'au jour où j'ai été forcée de me rendre à un entretien qui, malheureusement, a débouché sur un boulot. C'était un job d'administrateur d'interface dans une grande entreprise de design. L'interface, c'était un système de gestion de contenu. En gros, un intranet avec une interface graphique qui devait permettre aux 7 succursales de la société disséminées dans tout le Royaume-Uni d'avoir un accès partagé aux différents projets en cours. Rapidement, Eric a découvert qu'il ne devait son embauche qu'à un problème de communication au sein de la boîte. En effet, tout le système n'existait que parce que les divers associés étaient incapables de décrocher leur téléphone et de se coordonner. Autrement dit, Eric faisait office de rafistoleur. Eric. C'était une société en nom collectif, chaque associé gérant une antenne. Tous les partenaires semblaient être issus d'un même trio d'écoles privées et avaient fait les mêmes études de design au Royal College of Art. C'était des quadragénaires aux dents longues, typiques des profils que produisent ces boîtes d'enseignement privées, toujours en train de se tirer la bourre pour remporter des appels d'offres. Il était arrivé plus d'une fois que des employés de deux antennes différentes se retrouvent nez à nez chez le même client pour présenter leurs projets respectifs et soient obligés de fusionner hâtivement leurs travaux sur le parking d'une zone industrielle lugubre. L'interface devait fluidifier la communication entre toutes les branches pour que ce genre de bourde et quantité d'autres ne se reproduisent plus. Mon boulot, c'était de participer à son développement, la faire fonctionner et la promouvoir auprès du personnel. Sauf que, très vite, il est apparu que l'interface était seulement la lubie d'un des associés. Les autres, plutôt que de se frotter à lui, avaient semblé donner leur aval, mais par derrière, ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s'assurer qu'elle ne fonctionne pas. Le job d'Eric n'était donc même pas rafistoleur, c'était cocheur de case. Eric. J'aurais dû me rendre compte que cet associé était le seul à vouloir que l'idée voie le jour. Sinon, pourquoi aurait-il embauché un diplômé d'histoire de 21 ans sans aucune expérience en informatique ? Ils avaient acheté le logiciel le moins cher qu'ils avaient pu trouver chez des escrocs finis. Du coup, c'était un système infesté de bugs qui plantait constamment et ressemblait aux économiseurs d'écran de Windows 3.1. Tous les employés de la boîte faisaient de la parano, persuadés que l'interface était là pour surveiller leur productivité, enregistrer leurs frappes ou les prendre en flagrant délit de téléchargement de vidéos porno sur le réseau de l'entreprise. Résultat, ils ne voulaient pas y toucher. Comme je n'avais pas l'ombre d'une connaissance en programmation ni en développement, je ne pouvais pas améliorer grand-chose. Donc globalement, je me retrouvais à promouvoir et à gérer une grosse bouse défectueuse dont personne ne voulait. Au bout de quelques mois, je me suis aperçue que je n'avais à peu près rien à faire de mes journées, sinon aider les designers à la masse qui n'étaient pas foutus de télécharger un fichier ou de trouver une adresse mail dans le répertoire. L'insondable absurdité de la situation l'a bientôt conduit à des actes de rébellion, d'abord subtils, puis tout à fait francs. Eric. J'ai commencé à arriver de plus en plus tard et à repartir de plus en plus tôt. La politique de la boîte autorisait une pinte au déj du vendredi. Je l'ai transformée en 3 pintes à tous les déj de la semaine. Je me suis mise à bouquiner des romans à mon bureau et à faire des promenades digestives de 3 heures. J'ai perfectionné mon français en lisant Le Monde, en chaussettes, le petit Robert à portée de main. Quand j'ai essayé de présenter ma démission, mon boss m'a offert une augmentation de 2600 livres que j'ai acceptée à contre-cœur. Ils avaient besoin de moi, justement, parce que je n'avais pas les compétences requises pour mettre en œuvre ce projet dont ils ne voulaient pas. Et ils étaient prêts à payer pour me garder.
Voilà comment ça se passe. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le livre était traduit de l'anglais et que nous sommes donc en Angleterre. Et il va, sur l'exemple d'Eric, il entame une réflexion qui est d'ordre sociologique. À partir de ce chapitre, il y a plus de réflexion que de témoignages.
Beaucoup seraient tentés de voir dans le boulot d'Eric un job de rêve. Il était bien payé, à se tourner les pouces, et ce, pratiquement sans aucune surveillance. Il était traité avec respect et avait de multiples occasions de gruger. Malgré tout, la situation l'a détruit à petit feu. Pourquoi ? Je crois que cette histoire nous parle essentiellement de classe sociale. Eric, jeune homme d'extraction modeste, ses parents étaient ouvriers d'usine, rien de moins, frais et moulu de l'université et plein d'espoir, a connu une introduction soudaine et chaotique dans le monde réel. La réalité, en l'occurrence, c'était ça. Petit A, il n'était pas surprenant que dans l'esprit de cadre d'âge mûr, tout gamin blanc d'une vingtaine d'années était forcément, au moins à un certain degré, un as de l'informatique, même s'il n'avait aucune formation dans ce domaine, comme c'était le cas ici. Petit B, par conséquent, ils étaient prêts à le gratifier d'une situation franchement pépère, tant que cela servait leurs objectifs du moment. Petit C, pourtant, son job n'était rien d'autre à leurs yeux qu'une vaste blague, et ce, au sens quasi littéral du terme. Si Eric avait été embauché, c'était parce qu'une poignée de designers avait décidé de jouer une bonne grosse farce à l'un d'entre eux. Mais ce qui le rendait fou par-dessus tout, c'était de devoir conclure que, dans quelque sens qu'il retourne les choses, son boulot ne lui servait strictement à rien. Il ne pouvait même pas se dire qu'il faisait ça pour nourrir sa famille. Il n'en avait pas encore. Issu d'un milieu où la plupart des gens étaient fiers de fabriquer, entretenir et réparer des objets, ou en tout cas pensaient que c'était de ces activités que l'on devait tirer fierté, il avait cru que ses études à l'université, puis son entrée dans la vie professionnelle, lui permettraient de faire ce genre de choses avec peut-être plus de grandeur et de majesté. Au lieu de cela, il avait été embauché précisément pour ce qu'il ne savait pas faire. Il avait tenté de démissionner, on lui avait offert encore plus d'argent. Il avait tenté de se faire virer, pas moyen. Il avait voulu leur mettre le nez dedans, devenir une caricature de ce pourquoi il semblait le prendre, cela n'avait eu aucun effet. Pour bien comprendre ce qui est en jeu ici, imaginons un autre jeune diplômé d'histoire, placé exactement dans la même situation, mais issu, lui, de la classe moyenne. Appelons-le l'anti-Éric. En quoi se serait-il comporté différemment? Selon toute probabilité, il aurait accepté de jouer la comédie. Il n'aurait pas utilisé ses voyages d'affaires arrangés pour s'adonner à diverses formes d'autodestruction, mais pour accumuler du capital social, des relations qui, au bout du compte, lui auraient ouvert la voie vers un meilleur poste. Il aurait pris ce job comme un tremplin, et c'est un projet d'avancement professionnel qui lui aurait donné un but. Mais il ne s'agit pas là d'attitudes ou de dispositions innées. Elles sont inculquées aux enfants de la classe moyenne dès leur plus jeune âge. Éric, lui, ne pouvait pas agir ni penser ainsi parce qu'on ne le lui avait jamais appris. Cela explique qu'il ait préféré aller faire pousser des tomates dans un squat, du moins pour un temps.
Voilà. Alors, on a un deuxième exemple avec celui qu'il appelle l'anti-Éric, qui est certainement le personnage le plus qu'on rencontre le plus souvent aujourd'hui. Mais on va prendre, là, il y consacre moins de temps. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui est entré par piston, comme on dit dans la boîte, puisqu'il est le fils du PDG. Et c'est Rufus.
Rufus. J'ai eu le boulot parce que mon père était vice-président de la boîte. J'étais chargée de la gestion des réclamations. C'était une entreprise de matériel biomédical sur le papier, donc tout produit retourné présentait un danger biologique potentiel. Du coup, je pouvais passer mon temps seul dans une pièce sans aucune surveillance et en gros totalement désœuvrée. Quand je me remémore mon expérience dans ce job, je me vois surtout jouer aux démineurs ou écouter des podcasts. Ok, il m'est arrivé d'étudier des feuilles de calcul, d'intégrer des modifications dans des documents Word, ce genre de trucs, mais je vous assure que je n'ai rien apporté à cette boîte. J'avais mes écouteurs en permanence, je remarquais à peine les personnes qui m'entouraient et je me souciais comme d'une guigne des tâches dont j'étais chargée. J'ai détesté chaque minute passée à ce poste. Je prenais des pauses déjeuner à rallonge, je disparaissais pendant des heures aux toilettes, en fait, je me baladais. Je rentrais chez moi très tôt, personne ne mouffetait. Et tout ce temps-là m'était payé. Quand j'y repense, c'était un peu un job de rêve. Avec le recul, Rufus se rend compte qu'il était littéralement verni et il paraît déconcerté de se rappeler à quel point il haïssait ce boulot à l'époque. En fait, ce n'est guère étonnant. Ses collègues avaient certainement une piètre image de lui. C'était le fils du patron, payé pour tirer au flanc, trop imbu de sa personne pour leur adresser la parole, et on leur avait clairement fait savoir en haut lieu qu'il était intouchable. Il ne pouvait manquer de s'en être aperçu, et on se doute que cela ne devait pas susciter chez lui des sentiments très agréables. Cette histoire pose une autre question. Si le père de Rufus n'attendait pas de son fils un réel effort, pourquoi avait-il insisté pour qu'il prenne le job ? Après tout, il aurait aussi bien pu lui filer de l'argent de poche ou alors lui confier des tâches vraiment nécessaires, le former en conséquence et se donner un minimum de mal pour s'assurer qu'elles étaient effectivement accomplies. Au lieu de cela, il avait l'air de se moquer que Rufus acquiert ou non une véritable expérience professionnelle. Le plus important, c'était de pouvoir dire qu'il avait un job.
Voilà, on vient au cœur du problème. Il faut, le travail, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre si on ne travaille pas. Et c'est ainsi que Rufus donne un témoignage important. Mais depuis, d'ailleurs, il a bien changé son fusil d'épaule. Ensuite, on va voir une interruption des témoignages et on va passer à la psychologie et à l'histoire. Il cite aussi des personnages, le psychologue allemand qui s'appelle Karl Gross, je ne le connaissais pas, et qui fait, avec lequel il fait une parenthèse psychologique. Karl Gross a étudié les enfants et même les tout-petits, et il dit que ce qui est très important, c'est la joie que manifeste l'enfant, c'est la joie de se sentir cause de quelque chose. Voilà ce que montre le psychologue allemand Karl Gross. Et la parenthèse, elle est aussi historique. Et il cite, alors là, c'est un nom que j'avais connu quand même dans mes études, hein, Mose Finlay, qui est le grand spécialiste anglais de l'Antiquité. Et il se penche sur les débuts de l'esclavage. Qu'est-ce qui faisait dans l'Antiquité qu'un homme, et puis même bien avant, l'Antiquité classique, un homme était esclave et c'est qu'il était prisonnier de guerre. Il y avait des guerres entre les tribus, ensuite des guerres peut-être entre les États, et le prisonnier de guerre, eh bien, il devenait esclave. Et c'est ainsi, dit-il, que la notion d'esclavage est liée à la notion d'être prisonnier. Et c'est comme ça que Mose Finlay parle aussi des artisans. Il dit un Romain, quand il allait acheter une poterie chez le potier, il achetait sa poterie, il n'aurait jamais eu l'idée d'acheter le potier. Et le temps du potier, il aurait des yeux grands comme des soucoupes. Et là, on retrouve la forme de pensée qui était déjà à l'œuvre dans la dette, qui est la pensée historique. Il faut aussi une remarque sur les horloges. Autrefois, alors il en revient au Moyen-Âge et au XIVe siècle, il y avait des horloges, mais uniquement la grande horloge, le beffroi, dans la ville. Les horloges dans les maisons, dans les appartements privés, n'ont vu le jour qu'avec la révolution industrielle. Et il dit que c'est là que l'on a appris à compter le temps, alors que le temps, il ne devrait pas être compté. C'est ce que montre, alors là c'est de l'anthropologie, ce que dit Pritchard, l'anthropologue, sur les nouères.
Je ne sais
pas. Page 142.
Ah, allons-y.
C'est court. Mm-hmm. Ah, j'ai oublié de le noter, écoute. Oh là là.
Les nouères n'ont aucune expression équivalente au temps de nos langues à nous, et se trouve donc incapable de parler du temps comme de quelque chose de réel, qui passe, que l'on peut perdre, que l'on peut gagner, et ainsi de suite. Je ne crois pas qu'ils éprouvent jamais ce sentiment de lutter contre la montre ou d'ajuster leurs activités à un passage abstrait du temps. Leurs points de repère ne sont-ils pas surtout les activités elles-mêmes ? Or, ces activités ont en général des allures de loisirs. Les événements suivent un ordre logique, mais nul système abstrait ne les encadre. En l'absence de points de repère autonomes auxquels ces activités devraient se conformer avec précision, les nouères ont bien de la chance.
Voilà ce qu'il dit des nouères. Il va développer aussi une autre idée, c'est que, c'est une de ses grandes idées d'ailleurs, hein, la critique du mouvement syndical. Il dit que le mouvement syndical, à partir du 19e siècle, et le mouvement socialiste, il a découpé le temps et il a cherché à ce qu'une heure de travail soit comptabilisée. Parce que les travailleurs voulaient avoir du loisir et par conséquent, ils demandaient à avoir moins d'heures de travail. Ils en avaient beaucoup hein, à l'époque. Et c'est comme ça que dans ces revendications syndicales, eh bien, l'idée a fait son chemin que le temps du salarié, eh bien, il appartenait à la personne qui l'a acheté. Et c'est ce qu'il appelle une violence spirituelle. Il évoque d'ailleurs son premier job de plongeur avec deux amis. Il s'était engagé pour être plongeur et ils se sont trouvés face à une montagne de vaisselle sale. Ils ont développé un très bon plan pour pouvoir aller vite et ils se sont trouvés bien à l'heure pour rendre la vaisselle étincelante et pour avoir le temps d'aller fumer une clope dehors. Mais là-dessus, le patron les a vus et dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils répondent, ben on se détend après avoir travaillé, mais je ne vous paye pas pour ne rien faire. Je vais vous trouver quelque chose à faire. Il leur trouve, je ne sais pas quel nettoyage à faire, comme quoi il fallait absolument qu'ils passent tout leur temps à travailler. Alors il dit qu'évidemment, il n'a jamais plus essayé de travailler rapidement. Voilà les témoignages comme quoi hein, la job à la con, Elle rend si souvent malheureux. On va mettre de la musique. Et avant de passer à la deuxième partie de cette émission, il est 11h26 à la pendule de Radio Galère. Je rappelle le numéro de téléphone de l'antenne, 04 91 08 28 15.
Et les gars!
Galère, nous reprenons notre lecture avec cette question. Comment on peut expliquer la prolifération des jobs à la con?
Donc, c'est les trois questions, c'est ça
Alors, la première chose, oui, tu fais bien de me ralentir un peu, c'est qu'il nous montre des courbes significatives. Ces courbes concernent la répartition des secteurs. On sait depuis Fourastier que le secteur industriel baisse et qu'il est remplacé par le secteur des services. Donc, il a fait des courbes de répartition de la main-d'œuvre par secteur dans l'agriculture, l'industrie et les services de 1840 à 2010. Et on s'aperçoit que les services n'ont pas augmenté tant que ça. Et l'agriculture, elle a baissé terriblement. Et l'industrie a monté, mais pas tant que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne une autre courbe, un autre schéma. Ça se passe en Inde, et parce qu'il y a eu en Inde beaucoup de délocalisations. Et alors, là, les courbes concernent la contribution du PIB par secteur. Et là aussi, on constate la même chose, c'est que le secteur des services n'a pas augmenté tant que ça. Et il propose qu'il y ait ce qu'il appelle un quatrième secteur, qu'il appelle FIRE, c'est-à-dire finance, assistance, immobilier. Et c'est un secteur qui est très riche, vous allez le voir, en job à la con. Et se posent à ce sujet trois questions.
Dans le cas des jobs à la con, trois questions peuvent se poser. 1. Sur le plan individuel, pourquoi les gens acceptent-ils de prendre des jobs à la con et de les supporter ? 2. sur le plan économique et social. Quelles sont les forces structurelles qui ont conduit à la prolifération des jobs à la con? 3. Sur le plan politico-culturel, pourquoi la bullshitisation de l'économie n'est-elle pas vue comme un problème social et pourquoi personne n'a-t-il entrepris d'y remédier?
Voilà, trois questions à remarquer. Moi, c'est la deuxième question que je trouve qu'il faut se poser essentiellement quand on parle du travail. Hein, c'est pas tant la psychologique, mes états d'âme quand j'ai mon premier boulot et puis j'en change. Non, c'est en effet une question sociale. C'est une question politique dans la mesure où la classe au pouvoir, eh ben, elle joue le rôle de sa classe et pas le rôle du bien commun et de la suppression des boulots qui rendent les gens malheureux. Elle se pose en effet cette question du rôle des gouvernements. Et là, il va citer Obama. Obama, on sait que sa réforme Obamacare, qui est maintenant contestée par Trump, eh ben, elle ménageait quand même la place du privé. Et on va voir le jeune Obama, qui n'est pas encore président de la République, qui explique pourquoi on est obligé de donner de la place au privé dans l'Obamacare.
Est-ce à dire que la classe politique perpétue délibérément la généralisation de l'emploi inutile? Si cela vous paraît une suggestion audacieuse, voire digne d'une théorie complotiste, lisez plutôt cet extrait d'une interview de Barack Obama. Il y expose quelques-unes des raisons qui l'ont incité par la suite à conserver un système d'assurance maladie privé et concurrentiel, malgré les préférences exprimées par les électeurs. Je ne raisonne pas en termes idéologiques et je ne l'ai jamais fait, a déclaré Obama en poursuivant sur le thème de la santé. Ceux qui défendent le système à payeur unique nous disent « Regardez tout l'argent qu'on gagnerait en supprimant les assureurs et la paperasserie. » Or cela représente 1, 2, peut-être 3 millions de postes, des gens qui travaillent à Blue Cross Blue Shield, Kaiser ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Où on les emploie? J'invite le lecteur à méditer sur ce passage qui s'apparente à un véritable aveu. Que dit Barack Obama? Il reconnaît l'inutilité de millions de jobs chez les assureurs privés comme Kaiser ou Blue Cross. Il admet même qu'un système de soins publics serait plus efficace que le système existant, régi par le marché, car il éliminerait des morceaux de paperasse superflus, ainsi que les efforts redondants de dizaines d'entreprises privées concurrentes. Mais il souligne aussi qu'un tel basculement n'est pas souhaitable, justement pour ce motif. Maintenons le système actuel, puisqu'il est inefficace. Mieux vaut conserver des millions de jobs de bureau totalement vains que de se creuser la tête pour trouver une autre occupation à tous ces gratte-papiers.
Voilà les paroles de Obama. Et pourtant, Trump, c'est encore pire, hein. Il faut bien le dire. Et on va assister aux efforts des banques pour s'améliorer et améliorer l'image qu'on a d'elle. À partir de ce moment-là, il s'occupe essentiellement des banques. Et c'est ainsi que, pour il y a la question de l'intranet qui est mise en jeu. C'est pour que les gens de la même entreprise puissent communiquer entre eux. Ça n'a pas marché du tout. Il y a une autre façon de revaloriser l'image que le public a des banques, c'est la journée du bénévolat. La journée du bénévolat. Et c'est Rupert qui parle.
Au cours du siècle dernier, l'économie mondiale s'est progressivement complexifiée.
Oh là là. Avant de passer au secteur des banques, je me suis oublié une réponse qu'il a eue. Le texte est un peu ancien puisque c'est tout de suite après la parution de l'article de l'année 2013 qui a été la matrice en quelque sorte de son livre, et c'est une réponse bien capitaliste à son article de 2013.
Les biens produits sont plus complexes. Les chaînes d'approvisionnement utilisées pour les fabriquer sont plus complexes. Les dispositifs qui permettent de les lancer sur le marché, de les vendre et de les acheminer sont plus complexes. Les moyens de financement de tout ce système sont plus complexes, et ainsi de suite. Cette complexité est ce qui fait notre richesse. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement difficile à gérer. J'aimerais pouvoir dire qu'une bonne façon d'y parvenir serait d'avoir des équipes généralistes. des managers artisans qui contrôleraient toute la chaîne, de la conception du produit au traitement des réclamations des clients. Mais ce n'est absolument pas réalisable d'un point de vue économique dans le monde d'aujourd'hui. De même que la voiture individuelle bon marché ne se serait jamais démocratisée si les véhicules étaient produits un à un par des équipes de mécaniciens généralistes. Non. Pour faire les choses de manière efficace, il faut fragmenter chaque secteur en un grand nombre de tâches de types différents, ce qui permet d'atteindre un très haut niveau de spécialisation. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec l'équivalent, en employé de bureau, de l'ouvrier qui, toute la journée, fixe la languette A sur le cadre B. C'est celui qui brasse des papiers, gère les menus détails de la chaîne logistique, etc. La décomposition peut donner une impression d'absurdité, car de nombreux travailleurs interviennent à des stades incroyablement éloignés du point final du processus. Les temps où le minerai de fer était livré par une porte tandis que la voiture finie sortait par une autre sont révolus, mais l'idée n'a pas changé. En d'autres termes, l'auteur prétend que, à travers les jobs à la con, nous ne parlons que de l'équivalent post-industriel des ouvriers à la chaîne. Ces personnes dont le sort peu enviable consiste à effectuer les tâches requises par des processus de production de plus en plus compliqués. Des tâches répétitives, ennuyeuses, voire abrutissantes, mais on ne peut plus nécessaires. À l'heure où les robots remplacent les travailleurs d'usine, ces jobs seraient tout ce qui reste. Ceux qui professent une telle attitude ajoutent parfois, avec condescendance, que les gens convaincus d'avoir un job inutile sont juste étouffés par la prétention. Le problème, explique-t-il, c'est que la main-d'œuvre instruite d'aujourd'hui est truffée d'étudiants en philo ou en littérature de la Renaissance qui s'imaginent avoir une noble destinée et qui trouvent que c'est leur faire injure que de leur demander d'être de simples rouages dans la machine administrative.
Ça me fait penser à ce qu'on disait du colonialisme en Algérie. On a eu le tort de les mettre à l'école. Ils ont appris la République et la Révolution. Et maintenant, on s'étonne qu'ils s'opposent à nous et qu'ils luttent pour leur indépendance. Il est temps maintenant que je passe au secteur des banques, dont je parlais tout à l'heure un peu trop tôt, et avec quand même quelque chose pour dire que celui qui répond, il ne répond pas si mal que ça. David Graeber dit que c'est un texte qui est bâclé, mais il donne bien la justification du capitalisme avec la séparation du travail. Est-ce que tu vas trouver comment les banques... Est-ce que j'ai noté, c'est Rupert 239.
Merci Odile, c'était pas bien marqué. Alors je vais page 239 et nous allons essayer de trouver Rupert. Bon, évidemment, le secteur bancaire tout entier est du pipeau, vu qu'il ne crée aucune valeur. Mais c'est un autre problème. Intéressons-nous plutôt à ceux qui, dans l'univers de la banque, n'en fichent vraiment pas une. En fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est un microcosme assez bizarre. D'une manière générale, on ne fout rien, mais à l'intérieur de ce rien, la plupart des gens sont productifs, méritants et souvent efficaces. Le cas le plus flagrant, le meneur en quelque sorte, c'est le service des ressources humaines. À un moment donné, les banques se sont rendues compte que tout le monde les détestait et surtout que leur personnel le savait très bien. Elles ont voulu essayer d'arranger ça. Dans ma boîte, il y a un intranet. On a demandé aux ressources humaines d'en faire une sorte de communauté interne style Facebook. Ils ont lancé le truc, mais personne ne l'utilisait. Ils ont commencé à nous harceler pour qu'on y aille. Du coup, on s'est mis à le haïr encore plus. Ils ont essayé toutes sortes d'autres techniques pour nous motiver, comme d'écrire des sensibleries à la con sur la boîte, de publier des soi-disant blogs internes dont tout le monde se fout. Rien à faire, ça fait 3 ans qu'ils s'échinent sur ce Facebook interne et personne n'y va jamais. Jusqu'à maintenant, ça s'est résumé à des commentaires cucu postés par les gars des RH auxquels un de leurs collègues répond « Ouais, super texte, je suis complètement d'accord ». Comme ils font pour supporter ça, je n'en ai pas la moindre idée. Ça démontre juste le manque total de cohérence du secteur. Un autre de leurs grands trucs, c'est la semaine du bénévolat. Personnellement, je refuse d'y participer. Je donne aux œuvres caritatives, mais il n'est pas question que je le fasse par l'intermédiaire de ma banque. Pour eux, ce n'est qu'une gigantesque campagne de pub. Ils cherchent à remonter le moral des troupes en interne et à faire oublier au public que tout ce que font les banques, c'est s'approprier le fruit du travail d'autrui à travers leurs activités de prêt. Voilà comment ça se passe. Ils se fixent un objectif de participation, disons 90%, exclusivement sur la base du volontariat, après quoi ils font des pieds et des mains pendant 2 mois pour que les gens s'inscrivent. Si tu ne t'inscris pas, on note ton nom et quelqu'un vient te voir pour te demander des explications. Pendant les 2 semaines qui précèdent l'événement, tu reçois des mails automatiques en provenance de la direction générale qui t'encourage à signer. La dernière fois, j'ai vraiment craint pour mon poste. Ce serait chaud si je perdais mon taf parce que mon titre de séjour, c'est mon visa de travail. Mais j'ai tenu bon. Le nombre d'heures qu'ils passent ainsi à courir après les bénévoles, c'est ahurissant. Je crois que le terme technique, c'est être désigné volontaire.
Désigné volontaire, c'est pas joli. Alors, il y a aussi un autre élément qui est mis en valeur, c'est le scandale des PPI. Alors PPI, j'ai déjà oublié ce que c'est, mais la lecture va vous le dire.
Alors c'est peut-être ça. Elliot, j'ai travaillé pour un des Big Four, les 4 gros cabinets d'audit au niveau mondial. Une grande banque qui nous avait missionné pour prendre en charge les indemnisations des clients affectés par le scandale des PPI, dont on ne sait pas ce que c'est.
C'est une assurance. Pour le... J'ai oublié.
Comme ma boîte était rémunérée au dossier et que nous, on était payés à l'heure, il faisait exprès de nous former de travers et de nous désorganiser pour que les tâches soient mal exécutées. Les systèmes et procédures étaient constamment révisés pour bouleverser nos habitudes, ce qui garantissait que personne ne fasse jamais le boulot correctement. Résultat, à chaque dossier, il fallait tout réapprendre et de cette façon, les contrats étaient reconduits. Pour mémoire, voilà. Le scandale des PPI, Payment Protection Insurance, assurance emprunteur, a éclaté au Royaume-Uni en 2006. On a découvert que de nombreuses banques avaient vendu à leurs clients des polices d'assurance qu'ils n'avaient pas demandées et qui se révélaient extrêmement désavantageuses pour eux. Les tribunaux ayant ordonné le remboursement des sommes dans la majorité des cas, toute une nouvelle industrie s'est organisée autour de la gestion des réclamations PPI. Et, à en croire Elliot, une partie au moins des boîtes chargées d'administrer ces plaintes traînait volontairement les pieds afin de siphonner tout ce qu'elle pouvait sur ces contrats.
Voilà les scandales. On est en 2006, vous voyez, ce n'est pas encore la grande affaire de 2008. Avec, voilà le scandale des PPI, une assurance que la banque avait prise pour les gens sans les avertir. Et donc, ils devaient rembourser et se débrouillent pour que le remboursement soit extrêmement lent ou n'arrive pas à se faire. On va passer maintenant, mais après un peu de musique. Non. Tu as trouvé à la dernière partie de ce livre, les remèdes. Alors, les remèdes, il y en a 2, SCOP et puis le fameux RUB, Revue Universelle. Alors, deux des remèdes envisagés, c'est d'abord une scope. Il prend l'exemple de quelque chose que vous connaissez bien, l'Efralib. Mais l'Efralib, vu par David Graeber, ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu, cette lutte pour maintenir leur production, pour essayer de garder la marque, pour contacter tous les pouvoirs. Et non, là, il raconte qu'il y avait une usine qui dépendait de Unilever et qui marchait bien parce que les ouvriers aimaient leur travail et travaillaient très bien. Et puis qu'un jour, ils ont vu arriver trois jeunes gens en costume strom avec des cravates qui les regardaient, qui prenaient des notes et qui, disaient-ils, ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux a dit « Oh, mais il faudrait délocaliser ». Et c'est comme ça que les ouvriers du thé de l'éléphant se sont trouvés menacés d'être tous licenciés. Et ils se sont battus pour obtenir une scope qui s'est appelée Fralib. Et ils vendent à l'heure actuelle du thé. Le fameux thé 1336, qui est le chiffre représente le nombre des journées de grève qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas le plus important pour David Graeber. Ce qui est important, c'est le RUB, Revenu Universel de Base. Et il va présenter deux dames qui sont pour cela, qui militent pour ce revenu universel de base, parce que ça nous manque un peu ici, parce que les grandes idées, elles existent toujours, mais la base sociale pour les mener, eh ben, c'est plus difficile à trouver. Et en ce qui concerne Leslie, il va commencer par montrer comment elle en est venue là.
Leslie, le boulot que je fais ne devrait pas exister. Malheureusement, il est rendu nécessaire par tout le chapelet de jobs à la con créé pour empêcher les gens qui ont besoin d'argent de le toucher. Comme si la démarche d'aller demander des allocations, quelles qu'elles soient, n'était pas déjà suffisamment kafkaïenne, intrusive et humiliante. Il faut en plus qu'ils inventent une procédure super compliquée. Du coup, la plupart des personnes éligibles ont besoin d'aide, ne serait-ce que pour piger les questions posées et comprendre quels sont leurs droits. Loin. Cerise sur le gâteau, nos financements proviennent de fondations caritatives, ce qui implique un autre cortège de jobs à la con, commençant par ma pomme, chargée de constituer les dossiers de demande et allant jusqu'au directeur de ces organisations qui clament haut et fort qu'ils luttent contre la pauvreté et créent un monde meilleur. En ce qui me concerne, cela signifie d'abord des heures passées à identifier les sources de financement appropriées, à examiner les conditions d'éligibilité, à tenter de trouver la meilleure façon d'approcher ces institutions, à brasser de la paperasse, à donner des coups de fil, etc. Ensuite, si ça marche, je devrai tous les mois compiler des chiffres et remplir des formulaires de suivi. Chaque fondation a ses propres principes, ses propres statistiques, réclame sa propre liste de preuves que nous responsabilisons les bénéficiaires, que nous sommes des acteurs de changement, et d'innovation, blablabla. Alors que notre boulot se résume à jongler avec les réglementations et des éléments de langage pour aider les gens à remplir leurs dossiers et leur permettre simplement de vivre leur vie.
Et celle qui parle, elle a continué à être dans le système, mais on va voir comment ça se passe pour Candy.
Candy, j'ai commencé à défendre le salaire au travail ménager, parce que je me suis aperçue que c'était ce dont ma mère aurait eu besoin. Elle était coincée dans un mariage raté et elle aurait quitté mon père bien plus tôt si elle avait eu de l'argent à elle. Pour toutes les personnes prisonnières d'une relation violente ou simplement ennuyeuse, c'est fondamental de pouvoir s'en libérer sans connaître de difficultés financières. Avant de déménager à Londres, j'avais participé à divers mouvements féministes aux États-Unis. L'un de mes souvenirs fondateurs, c'est le jour où ma mère m'a emmenée avec elle dans ce qu'on appelait un groupe d'éveil des consciences dans l'Ohio. J'avais 9 ans. Toutes ensemble, on a arraché les pages du Nouveau Testament dans lesquelles saint Paul décrit les femmes comme de terribles créatures et on en a fait un tas. Comme j'étais la plus jeune, on m'a demandé d'y mettre le feu. Je me souviens que je n'osais pas parce qu'on m'avait appris qu'il ne fallait pas jouer avec les allumettes. « David, finalement, tu l'as fait ?»« Oui. Ma mère m'a dit que j'avais le droit et je l'ai fait. Peu de temps après, on a trouvé un job décemment payé et immédiatement, elle a quitté mon père. Pour moi, ce fut en quelque sorte la preuve ultime. C'était bien l'argent qui l'en avait empêché jusque-là. Au moment où Candy est arrivé en Grande-Bretagne...
Ça, c'est David qui prend la parole. On voit qu'il s'est mêlé à la rencontre.
Au moment où Candy est arrivé en Grande-Bretagne, le mouvement pour un salaire au travail ménager était considéré pour la plupart des féministes comme un groupe marginal, un peu gênant, voire franchement dangereux. Pour elle, au contraire... Pour elle, au contraire, il offrait une alternative au débat stérile entre progressistes et radicales parce qu'il proposait une vraie analyse économique des problèmes que rencontraient les femmes. C'était l'époque où l'on commençait à entendre parler de la machine à travailler mondiale, le système planétaire du salariat conçu pour mettre au turbin un nombre croissant d'individus en leur demandant de plus en plus d'efforts. Les critiques féministes, elles, dénonçaient le fait que ce système prétend définir ce que l'on devait considérer comme du vrai travail. En gros, tout ce qui pouvait être traduit en termes de temps, donc acheté et vendu. L'essentiel du travail accompli par les femmes n'entrait pas dans cette catégorie, alors même que, comme elle le soulignait, en son absence, la machine qui lui refusait le label de vrai travail s'enrayerait sur le champ.
Et voilà comment l'indemnisation, si j'appelle ça indemnisation, moi, du travail ménager, voilà David Graeber qui le prône, qui le reconnaît. Je me souviens que c'était il y a 50 ans, c'était l'affaire, c'était la droite qui d'ailleurs le défend toujours, que les femmes soient voyées, c'est bien leur place. En tant que féministe, je dois dire que là, il faudrait que David Graeber nous donne des excuses, mais ce qui est aussi à remarquer, c'est sa critique violente du productivisme. Il dit que quand les femmes disent qu'elles veulent être payées pour ce qu'elles font à la maison, elles disent qu'il y a un travail qui est invisible et qui devrait être reconnu. Et là, le productivisme, c'est terrible, il en donne une vision épouvantable. Un vrai travail, c'est le travail où c'est travailler plus pour gagner plus. C'est pas ça qu'il va vouloir. Et cette Candy va devenir une militante pour le revenu universel de base.
Alors là, on a une conversation entre David et Candy. David, est-ce que, au sein du mouvement pour le salaire au travail ménager, il était beaucoup question des implications politiques, je veux dire des mécanismes concrets qui permettraient de verser ce salaire? Candy, non, c'était bien plus une perspective générale. Il s'agissait de braquer les projecteurs sur tout ce travail non rémunéré dont personne n'était censé parler. De ce point de vue, ça a vraiment été un succès. Alors que le problème était totalement absent des débats dans les années 1960, il est devenu un sujet de discussion majeur dans les années 1970. Et aujourd'hui, on considère qu'il est normal de prendre en compte cet aspect quand on établit une convention de divorce, par exemple. David. Donc la revendication d'un salaire, c'était surtout une provocation. Candy. Bien plus en tout cas qu'un véritable plan de bataille, du genre « voilà comment on va faire concrètement ». Cela dit, on a évoqué la question de savoir d'où viendrait l'argent. Au début, l'idée était de le prélever sur le capital. Et puis dans les années 1980, Wilmette Brown a publié son livre « Black Women and the Peace Movement » et il y montrait comment la guerre et l'économie qui la soutient affectent profondément les femmes, en particulier les femmes noires. Alors le slogan est devenu « Donnez l'argent aux femmes, pas aux soldats ». D'ailleurs, on l'entend encore sous la forme « Payons ceux qui soignent, pas ceux qui tuent ». À part ça, on n'a jamais réfléchi aux mécanismes en détail. David, attendez, « Payons ceux qui soignent, pas ceux qui tuent », c'est le slogan de qui ? Leslie, de la grève internationale des femmes. C'est le mouvement qui a pris la suite du salaire au travail ménager. En 2013, on a publié le premier plaidoyer en faveur du revenu universel de base, RUB, européen. Deux mois plus tard, la grève internationale des femmes a réagi en diffusant une pétition qui demandait plutôt un salaire pour les aidants. Personnellement, cette idée ne me pose pas de problème, à condition de reconnaître que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des aidants. Ceux qui ne veillent pas sur quelqu'un d'autre veillent au moins sur eux-mêmes. Or, cela demande un temps et une énergie que le système n'est plus disposé à nous accorder. Du coup, admettre cela revenait à plaider pour le RUB. Puisque nous sommes tous des aidants, versons une somme à chacun et laissons-le décider lui-même de qui il souhaite prendre soin quand il l'entend. C'est pour des raisons similaires que Candy avait rejoint le mouvement du RUB. Avec certaines camarades de salaire au travail ménager, elle commençait à se dire « Bon, c'est bien joli tout ça, mais si on voulait mettre en œuvre un programme concret, il ressemblerait à quoi ?» Candy. Quand on distribuait des tracts dans la rue pour le salaire au travail ménager, on observait deux types de réactions chez les femmes qu'on abordait. Soit « Génial, comment je peux m'inscrire ?» Soit « Vous osez réclamer de l'argent pour des choses que je fais par amour ?» C'était assez compréhensible en fait. Ces femmes s'opposaient à l'idée de marchandiser toute activité humaine et c'est précisément ce qu'impliquait le salaire au travail ménager.
Voilà. Et il va prendre la parole, ensuite, la parole, l'écriture, pour dire que pour ce RUB, il y a deux façons de concevoir les choses. Et la façon conservatrice, c'est de dire, on reçoit, les gens reçoivent le RUB, mais on leur supprime leurs revenus sociaux. Et alors ça, c'est les conservateurs. Alors, on a un RUB, mais on n'a plus de sécurité sociale, on n'a plus d'allocation logement, ni rien. Et la deuxième chose, nous sommes en Angleterre, hein, c'est un débat qui est bien actuel maintenant. La deuxième chose, c'est que tout le monde reçoit un RUB. Oui, tout le monde, il dit, que soit riche ou pauvre, ça fait rien. Mais les prestations, voilà, je cherchais le mot, les prestations sociales demeurent. Et à ce moment-là, il en profite pour faire une profession de foi anarchiste. C'est la page sur... Tu as encore une lecture ?
Moi, quelque chose sur l'Inde. Exemple de l'étude pilote.
Oui. On a vu là le RUB qui était mis en chantier.
Voilà pourquoi l'étude pilote menée en Inde sur le revenu de base est si enthousiasmante. Déjà, on observe une diminution considérable des violences conjugales. C'est logique, car je crois qu'il a été démontré que 80% peut-être des disputes domestiques dégénérant en violences concernent des questions d'argent. Mais le plus important, c'est que cela commence à éroder les inégalités sociales. Verser à chacun une somme identique, c'est un point de départ fondamental, compte tenu du pouvoir symbolique de l'argent. Quand vous donnez exactement le même montant à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, castes inférieures et castes supérieures, ces différences s'estompent petit à petit. Par exemple, dans l'expérience indienne, on a pu voir que les filles commençaient à recevoir la même quantité de nourriture que les garçons. Ce n'était pas le cas auparavant. Que les handicapés étaient mieux intégrés dans les activités du village. Que les jeunes femmes abandonnaient l'attitude modeste et réservée qui leur avait été imposée par les conventions sociales et osaient désormais se promener dans la rue comme les hommes. Elles se mettaient à participer à la vie publique. Ce que cela nous apprend, c'est qu'un système de revenu universel de base doit allouer à chacun un montant suffisant pour permettre de vivre décemment. Et surtout, il doit être totalement inconditionnel. Tout le monde doit y avoir droit, même ceux qui n'en ont pas besoin. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est une manière d'affirmer que lorsqu'il en va des fondamentaux de l'existence, tout le monde mérite la même chose sans condition. De cette façon, on instaure un droit humain et non pas une aumône ou un simple rafistolage quand d'autres sources de revenus font défaut. Si certaines personnes ont des besoins supplémentaires, par exemple les handicapés, alors on s'en occupe aussi à part, mais seulement après avoir établi le droit de chacun à une subsistance matérielle. Voilà sans doute l'élément qui étonne et déroute le plus à propos du revenu de base. Attendez, vous n'allez quand même pas filer 25 000 $ par an, ou quelle que soit la somme, au Rockefeller aussi? Eh bien si, tout le monde, c'est tout le monde. En même temps, ce n'est pas comme si le montant risquait d'être énorme. Le nombre de milliardaires sur la planète n'est pas si élevé. En outre, les riches pourraient être imposés plus lourdement. Et puis, n'oublions pas qu'un système sous condition de ressources, même s'il fonctionnait à l'inverse de celui d'aujourd'hui, puisqu'il viserait à exclure les milliardaires, supposerait une bureaucratie dédiée. Or, l'histoire nous a appris que ce type d'administration a toujours une fâcheuse tendance à l'embonpoint. Au bout du compte, la proposition centrale du revenu de base, c'est de déconnecter les moyens de subsistance du travail. Une conséquence immédiate pour les pays qui l'instaureraient serait un recul massif des procédures bureaucratiques. En effet, le cas de Leslie montre bien qu'une part démesurée de la machinerie gouvernementale, de même que tout le halo d'associations qui l'entoure dans la plupart des sociétés riches, évoluant à la frontière entre le privé et le public, ne sert qu'à maintenir les pauvres dans leur situation humiliante. Et ce petit jeu, au coût moral exorbitant, soutient une machine à travailler mondiale largement inutile.
Voilà, la machine du productivisme. On va revenir en France et même à Marseille pour dire qu'on reconnaît là le slogan de mai 68, « Je ne gagne pas ma vie, il faut gagner sa vie ». Et réponse, « Je ne gagne pas ma vie, je l'ai ». Et on rappelle aussi qu'on a un ex-candidat à la présidence, Benoît Hamon, qui prône ce revenu universel. Et j'avoue que tout ce que dit David Graeber m'a fait me sentir assez marxiste en définitive, parce que le travail, moi je pense qu'il en faut, mais enfin, c'est pas ce qu'il dit. Et il justifie bien là, dans ses arguments, dans cette dernière lecture, que il faut désolidariser le fait de gagner de l'argent et le fait d'avoir un travail obligé. Hein. Et là, comment dire, je me souviens, si vous écoutez l'émission de Radio Galère, article 25, et ben, l'article 25 de la Déclaration de 48 des droits de l'homme, c'est que tout homme qui est privé de son travail, évidemment, là on parle de l'idée qu'il y a un travail, doit avoir a droit à un revenu décent. C'était ce qui a lancé l'émission. Donc un bonjour quand même à David Graeber. Et on va écouter, on a encore une minute, Noémie nous dit, là, oui, elle nous donne un peu plus sa profession de foi anarchiste. Comment ça se fait, un anarchiste qui puisse voir que l'État donne beaucoup d'importance, puisque c'est quand même l'État qui va mettre en chantier ce revenu de base. Alors, Eddie, en tant qu'anarchiste, je souhaite le démantèlement total des États. Et en attendant, je n'encourage aucune politique susceptible de leur conférer plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà. Mais, si étrange que cela puisse paraître, c'est précisément pour cette raison que je suis favorable au revenu de base. En supprimant toute la bureaucratie de distribution des minima sociaux, etc., il dit qu'il affaiblit l'État. C'est comme ça qu'il se justifie. Mais, pour terminer, il me semble que son livre va plus rendre de service au capitalisme et vont éliminer leurs bavures, parce que c'est des bavures, ces gens qui ne travaillent pas, il faut un peu les surveiller. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre la surveillance en place? C'est autre chose. Mais il n'empêche que sa dénonciation, plutôt que de nous emmener au démantèlement de l'État, nous emmène plutôt à voir comment faire que les travailleurs soient mieux traités dans la répartition des biens. Galère. Il est 12h03. Merci à Demi pour ces 3 minutes supplémentaires. Et Françoise, tu vas peut-être dire quelque chose.
Non, c'est presque qu'on aurait dû étudier comment raconter ce que propose Hamon. Ouais. Musique de fin.
Musique.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, ingekuwa wa dada.
Y ya no muero.